L'odeur de la lettre. Extrait de l'ouvrage « Écrire au pape et au Père Noël », cabinet de curiosités épistolaires de Benoît Melançon, une coédition de Delbusso Éditeur et Numérique Livre. À un bout du spectre olfactif épistolaire, il y a le parfum de l'amour. Les écrivains en sont friands. Le narrateur de « L'âne mort et la femme guillotinée » de Jules Janin ouvre un paquet mystérieux. Il se composait d'un mouchoir de soie, dont la couleur appartenait évidemment à une mode passée. Il était accompagné d'un simple billet soigneusement cacheté et encore tout empreint d'un parfum doux et faible, suave avant-coureur, d'une lettre d'amour. Barbé d'Aurevilly, lui, hésite, dans une vieille maîtresse, entre une lettre parfumée d'une odeur suave et distinguée et une autre, apportée par un poissonnier et maculé par sa main squameuse, dans laquelle il retrouve l'odeur si longtemps familière à ses sens, le parfum autrefois respiré dans les vêtements, dans les draps du lit, dans les cheveux, dans la peau d'une femme. Plutôt que vers le suave, le poète québécois Saint-Denis Garneau penche vers les odeurs fortes quand il écrit à Suzanne Trépanier-Côté le 1er janvier 1933 « Mets toujours beaucoup de parfum dans tes lettres, lui demande-t-il deux fois, après lui avoir exposé longuement sa théorie des parfums féminins. Il en chante la variété. Garneau est conscient qu'il n'écrit que parce qu'il est absent, que parce que Suzon n'est pas là. De même, il oppose le parfum de la présence et celui de l'absence. Ce n'est pas cet épistolier sensible à la perte qui écrirait comme un narrateur de Monterland. Quelquefois, elle parfumait ses lettres d'un parfum si violent qu'il était obligé de leur faire passer la nuit dehors, suspendu à des pinces à linge, et encore cela ne suffisait-il pas. Durant 8 jours, elles empestaient le tiroir de son bureau. À l'autre bout du spectre, il y a l'odeur de la mort. Dans le livre qu'il signe en 2000 avec John Seely Brown, « The Social Life of Information », l'historien Paul Duguid raconte, en tête du 7e chapitre, « Reading the Background », une de ses séances de travail dans un fonds d'archives commerciales au Portugal. Asthmatique, il lisait avec difficulté des lettres de la fin du XVIIIe siècle. La poussière accumulée le faisait éternuer, pleurer, haner. Un jour, un de ses voisins se mit à consulter le même type de document que lui. Consulter ? En fait, il ne lisait pas les lettres. Insensible à la poussière, il les flairait, à la recherche de l'odeur du vinaigre, toujours légèrement perceptible après plus de 2 siècles. Cet historien de la médecine savait que dans les villes du siècle des Lumières, quand se déclarait le choléra, on désinfectait les lettres qui en sortaient avec du vinaigre, histoire d'empêcher la maladie de se propager. L'intéressait dans ses archives la date et le lieu d'expédition des lettres, car il lui permettait de suivre la marche de l'épidémie. Après cette rencontre, Duguid ne lira plus de la même manière les lettres d'affaires auxquelles il se consacre. Dorénavant, écrit-il, les lettres enjouées qui racontaient aux clients et aux créanciers que tout allait bien, que les affaires prospéraient et que l'avenir était radieux, pourraient aussi révéler quelque chose de légèrement différent si des effluves de vinaigre s'en exhalaient. Duguid avait cru jusqu'alors que l'objet lettre n'avait guère d'utilité. Il rêvait d'un système numérique qui aurait conservé l'information des lettres et l'aurait débarrassé du papier et de la poussière. Il sait dorénavant qu'il se trompait. Le diffuseur de livres numériques, Café Scribe, est arrivé à la même conclusion, mais sa perspective est d'abord et avant tout commerciale. Après avoir sondé ses clients, les étudiants pour la plupart, Bryce Johnson, le patron du site, a déclaré que sa société enverrait à toutes les personnes achetant un livre en ligne un autocollant sentant le vieux livre suranné. C'est ce que rapporte l'agence de presse Reuters dans une dépêche datée du 22 août 2007. On fixe l'autocollant sur son ordinateur ou sur son livrel et le tour est joué. Poussons la logique plus loin. Pourquoi se contenter de la même odeur pour tous les livres? Pourquoi ne pas en sélectionner une propre à chaque titre, à chaque correspondance, à chaque roman épistolaire? La diversité des parfums est en effet un réservoir inépuisable. Il y a des lettres à la verveine, chez le Dorgelès des Croix de Bois, à l'ambre, entre le ponçon du Terrail du Club des Valets de Cœur. Aux fleurs d'oranger, dans une lettre de Flaubert à Louise Collet du 31 août 1846. Merci encore des petites fleurs d'oranger, tes lettres sont parfumées. Pour la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, on choisira entre deux possibilités. Je ne sais quel parfum presque insensible, plus doux que la rose et plus léger que l'iris, s'exhale ici, de toutes parts. Les suggestions devraient être les bienvenues. On s'adresse directement à l'éditeur.